Voilà, c'est fini. Les deux titres, c'était hors émission, hors sujet, mais voilà, c'est un rappeur qui s'appelle Mano Amano Sound System. Et maintenant, place au Club Ferré, mais d'abord l'indicatif. Angélique Ionatos, au revoir.
Rocío en las manos, rocío, agua del cielo, tierra mía y solo la inmensa marea, las estrellas soles, no dejes sedientos. Tanto te amo, lo que fue, fue para siempre, lo que queda son las raíces que se asoman transparentes, tus flores ya dan sus colores. Asoman transparentes tus flores y dan sus colores. Los labios del sueño, olvido de palabras, los dedos del viento. Soy el árbol del que eres sol. Rocío en las manos, rocío, agua del cielo, tierra mía y sol. La inmensa marea, las estrellas soles, no dejes sediento al árbol que tanto te ama, lo que fue, fue para siempre, lo que queda son las raíces, no dejes sediento al árbol que tanto te ama.
Sur les colonnes desséchées, mais personne ne peut plus rien, personne pour les ressusciter. Elles sont mortes avec tout ce qui était ici. Et je vois à peine sous les statues rêvent.
Vous êtes sur Radio Libertaire, en direct, 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste.
Ferry Club, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, entretien avec David Elmalek.
La Radio Libertaire, 89.5.
Oui.
Thank you.
Dans la chanson Beau Saxo, Léo dit des saxophones. Vous êtes comme les gitans, vous les saxos, mes frères, vous cavalez tout le temps sur l'octave des misères. Beau saxo, beau saxo. Je ne manquerai pas, éventuellement, de demander à mon invité ce qu'il pense de cette parenté qui est appelée Léo entre son instrument et les gitans, population éprise de liberté s'il en est. Bonjour David Elmalek.
Bonjour.
On va se tutoyer parce qu'on se tutoie hors antenne, donc on va maintenir le tutoiement. Je préfère prévenir les auditeurs et auditrices. Tu es musicien, saxophoniste, compositeur. Oui. Tu viens de publier un album qui s'intitule Traveling chez Sunset Records, dont nous allons évidemment parler au cours de cet entretien, mais c'est avant tout de ton rapport d'individu et de musicien à Léo Ferré que nous allons parler dans le cadre du Ferré Club. En effet, l'œuvre de Léo tient une place particulière dans ta vie. J'en veux pour preuve la présence d'une adaptation de la chanson de Léo intitulée Pépé, qui est paru en 1969 sur l'album Blanc, qui intervient donc sur ton album Traveling. Et on va parler bien sûr de cette adaptation, de ce travail, mais on va commencer par le début, si tu veux bien, et le début de ton parcours dans l'œuvre de Léo, et savoir finalement comment est-ce que celle-ci, cette œuvre, parvient jusqu'à toi.
Oula, je t'expliquais hors antenne que Ferré est arrivé par le biais de mon frère, mon cousin qui faisait du théâtre. Donc les théâtreux sont très... je pense qu'ils sont très fans de Ferré. Pas forcément de sa musique, de ses textes et de son expression, au sens vrai, au sens théâtral aussi. Et donc, je me souviens, je devais avoir 12-13 ans, un truc comme ça. Et donc, je sais plus, mon cousin traînait beaucoup avec mon frère, qui était donc musicien, lui, pour le coup, musicien classique. Et donc, très attiré par la musique où on se lâche, quoi. Enfin, et donc, le théâtre, pour lui, c'était un moyen aussi de se lâcher, parce qu'il lisait beaucoup, tous les deux. Et je me souviens, ils étaient assez fans d'un disque seul en scène, qui s'appelle comme ça, je crois.
Ouais.
Je ne sais plus s'il est édité maintenant sous ce nom-là. Mais je me souviens, Léo, seul en scène, je me souviens de ce truc. Et je me souviens de cette voix seule, quoi, de Léo Ferré qui dit ses textes. Donc moi, à l'époque, je comprenais absolument rien. Mais alors, vraiment rien. D'ailleurs, il y a certains textes que je ne comprends toujours pas, mais je dois dire que c'est autre chose qui m'a attiré dans ce que j'entendais. Donc, j'entendais une voix très timbrée, très grave, très basse. Et donc, on sait que tout ce qui est bas, d'un point de vue acoustique, c'est pour moi, ça communique. C'est pas comme une fréquence aiguë où on est un peu choqué, quoi. C'est-à-dire que quand tu plaques un accord, par exemple, sur un piano ou sur une guitare, tu vas entendre la voix la plus haute. Ça, c'est ce que l'oreille humaine entend. Mais tout ce qui est grave, c'est quelque chose de... Moi, je ramène ça à une espèce de profondeur.
Quelque chose de charnel?
Ouais, c'est ça, un peu charnel, un peu... je pense que les malentendants vont aller chercher les fréquences basses, quoi. Bon, bref, tu vois, par exemple, Léo, quand il dit « Vous n'êtes plus que pour avoir péri » dans l'œuvre de Aragon, enfin, c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour moi, quoi. Donc, dans Seul en scène, je me souviens où il y a un passage où, avec le piano, comme ça, il fait des accords, puis il déclame comme ça son texte. Et, enfin, j'ai l'impression d'être dans un truc entre la musique et l'espace, quoi. L'espace au sens, je suis jamais allé dans l'espace, mais c'est un truc un peu mystique. Voilà, un peu mystique pour moi. Et donc voilà, c'est resté là, toute cette histoire. Et puis eux ont fait leur chemin, mon frère et puis Hervé, il s'appelle comme ça, mon cousin. Et donc Hervé a arrêté le théâtre, puis Léo a disparu, vite comme ça. Et puis mon frère Franck a arrêté la musique aussi. Et donc moi, je me retrouve catapulté musicien des années plus tard, donc, quand j'ai 20 ans. Et là, ça revient assez vite. C'est-à-dire, pendant toutes ces années, bon, ben voilà, quoi, Léo, je savais que ça existait, mais je savais pas vraiment qui était Léo Ferré, quoi. Ouais. Je savais que c'était un musicien avec des cheveux comme ça, mais sans plus. Tu vois, c'est assez bizarre, quoi. Pas un rejet, mais un truc... c'est pas pour moi, quoi. C'est trop fort, quoi. Bon, bref. Et donc, là, quand je me mets à développer ma propre musique, que je me lance dans ma future vie de musicien, ça revient assez vite.
Ouais.
Très vite.
Qu'est-ce qui fait que ça revient, comme ça?
Bah, la chanson. La mélodie. Les mélodies. Et donc, effectivement, là, j'ai commencé à ressortir des disques, acheter des disques, et puis écouter la première période, donc des périodes où il est souvent, lui, au piano, et puis c'est là un peu de la chanson française, comme on la faisait dans les...
Un peu marqué, quoi.
Un peu marqué par... c'est-à-dire qu'il chante vraiment, quoi. Il essaie vraiment d'être avec son vibrato et tout ça. Bon, j'étais presque... autant touché que parce qu'il a fait 60 ans plus tard ou 50 ans plus tard, et autant marqué parce qu'il a fait, parce qu'il m'a vraiment foudroyé, c'est-à-dire vraiment le début des années 60, tout ce qu'il a fait avec Barclay, quoi, on va dire, hein. Même les trucs que j'écoute quasiment plus. Et j'ai essayé d'intégrer ça, moi, dans ce que j'avais envie de faire, mais dans mon milieu. Qu'est-ce qu'on fait avec du Ferré, là? Ça n'a rien à faire, là.
Ouais.
Et donc, du coup, bah, voilà, j'ai essayé deux, trois fois, puis ça ne marchait pas. Je voyais que les gens se moquaient. Enfin, il y avait un côté vide.
Mais qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais déjà des adaptations de certaines de ces chansons en tant que musicien?
Par exemple, je pouvais prendre une chanson que moi je développais, par exemple dans mon projet Music from Source, qui est un projet un peu autour de la musique... la musique judéo-espagnole, enfin, j'ai fait tout un espèce de projet comme ça, qui se décline sur quelques années.
D'accord.
Et où je reprends des folklores, des choses comme ça. Et en fait, toutes les adaptations que je pouvais faire au niveau écriture, improvisation, en fait, je m'apercevais que c'était lié à Ferré, tout le temps. Par exemple, j'ai inventé une mélodie... Mais c'est pas de moi.
Ouais.
Merde alors. Mais c'était les débuts, c'est normal. Et donc je disais au pianiste, qu'est-ce que tu peux jouer ça? Alors lui, tu vois, bon bah il jouait ça et ça rendait pas comme sur le disque. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et puis bah oui, effectivement, c'est pas ta musique. Donc là, il a fallu se remettre devant une table et dire bon, attention, là il y a danger, parce que là tu reprends des choses qui ne sont pas de toi, donc il faut appeler ça comment s'appelle cette chanson, pour tout bagage on a 20 ans,
ouais, 20 ans, ouais.
20 ans, voilà. Et donc ben joue 20 ans. Ah ouais, mais en tant que musicien de jazz, comment je vais jouer ça, moi?
Ouais.
On peut pas jouer ça. C'est pas possible. Donc, est-ce que je peux faire un arrangement? Oui, mais tu n'es pas encore bien placé quand tu viens de commencer.
Moi, j'ai légitimité.
Voilà, il faut attendre 15-20 ans pour pouvoir écrire des arrangements pour grand orchestre ou pour des big bands ou je ne sais trop quoi.
Faut un peu de bagage pour s'attaquer à du Léo?
Non, pour s'attaquer à un arrangement.
Ah, d'accord, tout court. D'accord.
Non, le Léo, ça viendra plus tard.
Oui, bien sûr.
Donc,
bien sûr.
Mon projet Travelling, voilà, là, ma reprise de Pépé, effectivement, il a fallu que je me pose la question de...
On va en parler.
On va en parler.
On va en parler, ouais. Mais déjà, à ce moment-là, quand même, tu es déjà assez habité par l'œuvre de Léo pour que sa musique te remonte, quand même, moments-là, quoi.
Mais
donc, comment est-ce que se fait cette immersion dans l'œuvre de Léo? Parce que on part effectivement de seul en scène, enfin, d'un concert quand tu étais jeune.
Mmh.
Et ensuite, à 20 ans, tu es déjà quand même habité par ces mélodies, puisque 20 ans te remontent.
Il me continue à me hanter.
Ouais, encore aujourd'hui.
Ah oui?
Oui, bien sûr, ouais.
En fait, quand je te parle là, j'ai cette résonance d'univers là qui me revient dans les oreilles, mais tu peux pas l'entendre, mais c'est là tout le temps, quand je marche dans la rue, quand je
Ah ouais, à ce point-là.
Ah ben bah, c'est très grave. En fait, je me demande si il faudrait pas que j'aille faire un tour à l'hosto. Non, je déconne, mais c'est tellement profond que je peux me foutre à pleurer, quoi. Enfin, ça me pose aucun problème. Tu vois, ça va très loin. Oui. C'est-à-dire que je pense que, en fait, je pour revenir à mon développement personnel dans la musique, pour développer un artiste, comment on fait ? Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit on va au conservatoire, on apprend, patati patata. Bon, ben moi, j'ai pas été pris au conservatoire parce que voilà, quand on commence la musique à 20 ans, oui, c'est déjà trop tard.
Oui, c'est un peu tard, effectivement. Vois,
donc, ouais, ouais. Cette chanson, 20 ans, elle me fait bizarre, moi, dans mon oreille. Parce qu'il parle pas de ça, lui. Il parle d'autre chose. Mais ça me... Je ramène ça à mon histoire, je ne peux pas faire autrement.
Bien sûr.
C'est comme ça. Donc moi, à 20 ans, normalement, je devrais travailler. Je ne devrais pas être en train d'apprendre la musique. Tu comprends ?
Ouais.
Et donc voilà, je m'approprie ça et je me dis, mais alors, donc, intéresse-toi à l'artiste. Comment il a commencé ? Ben, alors, on y va, on achète un livre, on lit, et puis j'apprends comment cet artiste s'est développé. J'ai fait la même chose avec Charlie Parker et Coltrane, hein, et Coleman Hawkins et Duke Ellington et Count Basie. J'ai fait exactement la même chose. Sauf que là, il y a quelqu'un qui est un Français, qui est quelqu'un que j'aurais pu presque toucher, quoi. Coltrane, je sais pas, il habitait à New York, c'est loin, il est noir, moi je suis pas noir, tu vois, il y a plein de trucs qui me coupent d'une certaine tradition. Là, on est beaucoup plus proche, quoi, tu vois. Et la musique qu'il joue, elle vient aussi d'une culture très jazz, même à une époque très reculée. Donc le jazz n'est jamais très loin. Et je sais qu'il se moque beaucoup, hein, dans des chansons du jazz et tout ça. Et je pense qu'il avait, il devait des choses, il devait régler certains trucs avec les musiciens de jazz. On va pas parler de ça maintenant, mais en tout cas pour moi, ça a été un point d'ancrage où je me suis posé et je me suis dit OK, allez, on va défricher comme si je prenais une encyclopédie et j'apprenais. Comment cet artiste s'est développé. Et donc, il y a plein de ramifications. C'est-à-dire qu'un musicien de jazz, il apprend les notes, il apprend à improviser, et puis à se détacher du texte et à se libérer de toute contrainte et à essayer de tenir l'auditeur pour pas trop s'éloigner. Mais avec les mouvements des musiciens de free, par exemple, on se dit, mais on s'en fout du public. Nous, ce qu'on veut, c'est nous développer. On veut défendre quelque chose à dire. Eh ben moi, je me suis pas trop éloigné. Je me suis arrêté là et je me suis dit OK, moi, je vais revenir au texte. Et donc, j'ai besoin d'un mec de référence.
Ouais, d'accord.
Et donc, il a été le mec de référence parce qu'il est, pour moi, c'est un musicien de free, c'est un musicien de jazz comme Duke Ellington parce qu'il a écouté les anciens, il a vu Ravel, il a vu. Tout ça, et donc je peux m'approprier cette histoire pour me construire. En fait, il m'a construit, musicalement. Et aujourd'hui, quand je monte sur scène et que je joue Pépé, effectivement, en fait, je à travers ce qu'il, lui, il a vécu, cette catastrophe qui est une catastrophe hallucinante, on n'arrive pas à se remettre dans ce contexte-là, mais ce qu'ils ont vécu, là, c'est quand même un truc... presque extraordinaire et terrible. Eh ben,
de quelle catastrophe tu parles ?
Ben, la mort de ce chimpanzé.
Pardon.
Ah bah oui.
Pardon, oui.
Bon, ben, pour pouvoir exprimer ça, comment tu fais ? Comment tu expliques aux musiciens qui voient une mélodie où il n'y a rien ? C'est que les touches blanches, le pianiste m'a dit hier. C'est que des touches blanches. Donc si tu m'entends, Baptiste... Là, je lui parle. C'est que des touches blanches, mais il y a bien autre chose derrière tout ça.
Ouais.
Qui sont beaucoup plus compliquées à expliquer. Donc, comment on explique à un artiste d'aller fouiner au plus profond de son âme pour dire quelque chose ? Eh bien, les musiciens de jazz vont dire, mais c'est que des touches blanches, tu joues do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, à l'envers, ça revient à la même chose. Ben ouais, mais bon, vas-y, raconte-moi l'histoire. Bon, ben, Pépé s'est fait exécuter, il s'est pris un coup de fusil, ah, c'est dur, ok, bon, alors, ok, je connais cette histoire, alors je vais l'interpréter comme ça, tu vois où je veux en venir ?
Ouais.
C'est-à-dire que, en fait, les musiciens de jazz ne s'intéressent pas au fond. Ce qui les intéresse, c'est l'harmonie, c'est l'aspect intellectuel de la chose. Et donc, effectivement, quand tu improvises sur une structure harmonique, on va dire, sur un blues, sur une chanson de l'époque, je sais pas, en fait, on joue sur des harmonies comme ça qui défilent, et l'improvisateur va se dire, tiens, là, on est en do majeur. Ah, tiens, là, on passe en ré. tiens, là, on passe en la. Mais comment on fait pour passer des harmonies en harmonie? Ben, on apprend des gammes, et puis en apprenant les gammes, on apprend les accords, et puis après, on apprend à les enchaîner avec les belles notes, et d'accord. puis après, avec les approches des notes, et puis après, avec des fausses notes, pour créer une tension, une détente, et puis c'est ça, le jazz, finalement. Et c'est la science des sons. Tu comprends?
Ouais.
Mais est-ce qu'il y a du texte? Ben non, il n'y a pas de texte. On a des chanteuses et des chanteurs de jazz qui disent des textes. Eux nous bouleversent. Et quand tu apprends le jazz, on te dit souvent, tu as écouté Sinatra, ou tu as écouté Ella Fitzgerald. Oui, oui, j'ai écouté, mais je ne ressens pas la même chose. Pas du tout. Je ne ressens pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que dans le jazz, il y a une certaine tradition qui se coupe de je sais pas quoi, je m'en fous en fait. Ça m'intéresse pas de savoir de quoi ils se sont coupés. Moi, ce que je sais, c'est que en fait, dans la réunion de la musique de Ferré, en fait, il y a quelque chose entre l'harmonie et le texte. Et la voix, donc le texte qui va glisser sur la musique et qui va nous arriver en pleine poire. Comment ça se passe? Comment on peut en parler de tout ça? Eh ben voilà, on y est. Je ne sais pas. Donc j'écoute attentivement comment il fait et je vais plus loin que le simple fait de dire « Oh, cette chanson me touche » ou « Cette chanson ne me touche pas ». Je me dis « Mais qui joue derrière, là ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Pourquoi ils ont utilisé tel réverb ? Pourquoi ? Le comment ? » Enfin, ce que je te disais un peu hors antenne. Je rentre tellement dans le détail que ça devient barge, quoi.
Obsessionnel.
Mais obsessionnel, dans le bon sens du terme.
Oui.
C'est-à-dire que quand tu joues Pépé, effectivement, je n'ai pas vécu cette mort, moi. Je ne peux que l'interpréter. Tu comprends?
Oui, bien sûr.
Et donc, comment je fais? Eh ben, c'est par Léo que j'ai réussi à entrouvrir une petite porte dans mon milieu qui est le jazz, où on n'apporte aucune attention à ça. Aucune. Hier soir, je sais que tu es venu au concert.
Oui,
on a, je sais pas comment tu vas pouvoir en parler à un moment donné. C'était juste pour dire qu'on a joué une chanson d'un grand compositeur qui s'appelle Stephen Sondheim, qui a fait plein de comédies musicales et tout ça. Et on a la chance d'avoir des documents de ce gars-là qui donne un cours, une masterclass, on va dire, à des chanteurs et des chanteuses lyriques de comment interpréter cette chanson. La chanson que lui a écrite, qu'on a jouée, qui s'appelle Send in the Clown, Faites entrer les clowns. J'ai failli appeler mon disque Faites entrer les clowns, mais on m'a dit, oula, tu ne peux pas faire ça. C'est pas bon. Et j'ai dit, ah bon, ok, on va l'appeler Traveling, alors, très bien. Et du coup, il explique, il dit, oui, alors tu vois, quand tu dis ce mot-là, il faut qu'on distingue ça, et puis ça, et puis ça. Je me dis, wow, quelle tronche, quoi. C'est hyper complexe, quoi. Enfin, tu vois, c'est presque du mot à mot, quoi. Chaque lettre doit être prononcée comme ça pour machin. Et finalement, c'est très classique, quoi, dans le sens. Ouh là là, mais quand est-ce qu'on va laisser l'interprète millimétré, quoi.
Ouais, ouais.
Mais ça m'a aidé à comprendre sa musique. C'est pas les plus belles versions que j'ai entendues, où lui est souvent au piano et il présente souvent ce sont des chanteuses qui jouent cette chanson qui est très touchante comme ça, et moi je suis pas touché parce que je trouve que c'est trop découpé, quoi, à la hache.
D'accord.
Et donc du coup chaque intervalle qui est prononcé, oh là là, c'est carrément c'est presque un diapason à la lettre, quoi, tu vois. Et ce que je ne retrouve pas dans la musique de Léo, c'est-à-dire qu'il peut, c'est à l'arrache, quoi. Il y a un côté très rare, quoi. Ça nous arrive là, et puis on se dit mais qu'est-ce qui se passe?
C'est pas
quoi
calculé.
Alors si, je
ça
pense
l'est quand même,
que
ouais,
ça l'est quand même. Je pense que ça l'est, mais par sa culture. C'est un musicien caché, quoi, classique. C'est un musicien classique. Mmh. Enfin, c'est classique au sens large, hein. Tu vois ce que je veux dire. Il a étudié la musique classique. Toutes les photos où on le voit avec des scores d'orchestre. Tout le monde ne lit pas un score d'orchestre.
Ou ne l'écrit, hein, parce qu'il en a écrit.
Il ne
aussi
l'écrit. Alors, bon, ça, c'est encore un autre volet. Mais déjà, avoir un score d'orchestre, au lieu de lire de la poésie, le type, il lit des scores d'orchestre. Bon, bah, voilà, quoi.
Ouais.
Ça veut tout dire. tu vois. Donc voilà, je rentre comme ça dans, dans l'œuvre de Léo Ferré et je me dis, tiens, petit à petit, je vais essayer de m'inspirer en fait de cet artiste qui ne cesse de changer. Il ne cesse de changer. Chaque époque, c'est badaboum, badaboum, on renverse et ah tiens, on fait ça, on t'attendait à ça, ah ben non, ça sera pas ça, ça sera encore... Waouh, ben c'est un Miles Davis.
Le chapeau sur l'œil, le reste à Auteuil. Ils ont 36 mains, les rupins. Aux galeries, la farfouillette, ils farfouillent et font leurs emplettes. Aux galeries, Saint-Honoré, ils se foutent un gâteau dans le cornet. La serviette au col, le pif sur le bol. Ils ont le bec fin, les rupins. Leur couteau comme un stylographe, ils découpent et font des paraphes en regardant sur le mur blanc pendre l'assiette en vieux Rouen. 1000 hectares de bois, 1 hectare au bois. C'est très parisien, les rupins. Le fric, c'est comme les parchemins, ça se met en tas dans un petit coin. C'est pas méchant, ça fait pas de bruit, pas même quand ça fait ses... Madame a allongé le plumard anglais. Ils font ça très bien, très bien, très bien, les rupins. Quand on est deux, c'est pour la vie. Quand on est trois, c'est plus gentil. Quand on est quatre, c'est plus carré. Suffit de savoir se retrouver. Mademoiselle est là, le ventre aux abois. C'est pas des lapins, les rupins. Voyage en Suisse, produits anglais. Faut voir comme ils sont informés. Faut pas ternir les vieux blasons et que tout soit propre à la maison. Faut la mer, c'est des business is business. Ça n'est pas chauvin, les rupins. On part au ski, bridière un brin. On part à Cannes, quand on revient. Si partir c'est mourir un peu, les rupins ça doit pas se faire vieux. La révolution, c'est une opinion. Ça mange pas du pain, les une tête par-ci par-là, 20 ans après, tiens, vous revoilà. Les rupins, c'est comme la chienlit, plus qu'on l'arrache, plus que ça reproduit.
David Elmalek dans le Ferry Club sur Radio Libertaire. Tu as quand même beaucoup parcouru son œuvre, quoi. Tu l'as beaucoup écouté, tu l'as éventuellement lu quelques
ah bah,
textes aussi.
Pas plus tard que hier, j'étais encore en train de fouiner sur Internet pour essayer de trouver des liens sur des un truc qui est lié à sa, forcément à lui et à sa musique et aux gens qui ont pu l'exécuter.
Ouais.
Il y a toujours quelque chose. Pour moi, c'est le Big Bang, quoi. C'est pouf, ça explose et puis ça, pff, on s'éloigne, mais à un moment donné, il faut qu'on essaie de revenir à l'origine, tu vois. Bon, je me perds un peu dans mes trucs, mais je fais exprès parce que je c'est ça aussi, improviser, je calcule pas, ça sort, quoi.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Voilà,
bien sûr.
Et donc voilà, et donc mes débuts sont un peu. C'est maladroit, tu vois, pour moi, de reprendre un petit arrangement comme ça que je fais jouer par le pianiste, et puis en fait, c'est ni plus ni moins que le riff qu'on entend dans 20 ans.
Ouais.
Tu vois ? Donc je me dis, ok, on va mettre ça de côté, je vais écrire de la musique. Et là, je me suis lancé dans la composition, et j'ai complètement occulté Léo pendant des années, mais sachant qu'il va falloir à un moment donné se trouver. Donc comment on se trouve ? une fois qu'on a écouté toute l'œuvre de Charlie Parker, toute l'œuvre de Coltrane, toute l'œuvre de Duke, toute l'œuvre de Miles, et j'en cite et des meilleurs, parce que là, on parle que des plus grands. Ben lui, c'est le plus grand. Pour moi, il est au panthéon des Coltrane, et pour moi c'est la même chose.
Mais parce que sa création musicale te permet une forme de structure, une forme de, enfin j'arrive pas à bien comprendre.
Eh ben c'est de me trouver moi en tant qu'artiste. Qu'est-ce que je dis dans le jazz? Qu'est-ce que je raconte? Puisque de jouer le blues ça ne m'intéresse pas. Puisque de jouer le style jazz. Le style, hein, je déteste ce mot-là, mais il faut bien l'employer. Quand tu sors un disque, il faut bien être dans une catégorie, ouais, on va te mettre là, quoi. Ouais. Tu vois, alors que tu dis, mais je fais de la musique, je fais pas du jazz. Mais si, mais tu fais du shabada, quoi. Enfin, même si aujourd'hui, on n'en fait plus. Ouais. Mais grosso modo, on va te mettre là. Mince, mais moi, j'aurais bien aimé être n'importe où, quoi. Ah bah non, on vend pas Hélène Ségara et David Elmalek au même endroit. Mm. Tu vois, je ne critique pas Hélène Ségara.
Hein. Non, mais...
Tu vois. Non, mais c'est sérieux.
Oui, bien sûr.
Voilà, j'aurais bien souhaité... Ben non, Hélène Ségara, elle vend des millions. Toi, tu peux pas être là. Toi, tu vas être là. Au rang des musiciens de jazz, qui sont des intellos un peu comme ça, quoi, tu vois. Alors bon, là, excusez-moi, hein, les auditeurs, s'il y a des musiciens de jazz, ils vont être très durs avec moi, mais je le pense... Sincèrement, sans être dur, je pense qu'il y a un petit côté un peu nombriliste derrière tout ça, et du coup, je me méfie de ça et de moi-même, quoi, parce que j'ai quand même produit des disques, j'en ai sorti, et puis bon, bah, je vois très bien, je suis enfermé dans un système. Donc, comment se sortir de là? Ben là, il n'y a pas mieux.
Hein.
Ah, bah oui, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire que effectivement, les 12 années où je me suis arrêté de produire complètement, eh ben, je ne pouvais pas. Il fallait que je joue de la chanson déjà, des chansons. Et dans les chansons, il fallait que Léo soit là. C'était obligatoire. De toute façon, mon rêve, c'est de faire un hommage à Ferré, mais à ma manière, quoi.
D'accord.
Tu vois, c'est mon plus grand souhait, hein. J'adorerais faire un projet autour de sa musique, plus autour du compositeur. Hein. Alors si j'avais les moyens, je ferais un truc complètement dingue, parce que j'ai tout dans la tête, mais je peux pas le faire parce qu'il faut beaucoup de moyens et on sait que Léo a bien galéré avec toutes ces histoires de moyens et je le comprends tellement. Mais à notre époque, c'est juste infaisable. Et c'est marrant. Parce que avec cette absence de 12 ans que j'ai eue, quand je suis revenu et je me suis dit, tiens, je vais faire des chansons comme ça et je vais jouer Pépé parce que j'ai envie de la jouer, cette chanson. Et j'en ai joué plein d'autres, hein, qui ne sont pas dans ce disque, qui sortira plus tard.
D'accord.
Parce que là, il y a de quoi faire 3 ou 4 disques. Et on en a choisi 9 et on a pris Pépé. Et le producteur, il ne savait absolument pas ce qu'on allait faire. Quand il a entendu ça, il m'a dit, mais il faut le sortir impérativement et il faut le mettre en premier. En premier.
Il a reconnu la chanson, non?
Bien sûr.
Ouais, quand même.
Ah oui, parce qu'il connaît Ferré. Il connaît,
d'accord.
Il connaît, il a un bon truc. Alors lui, il voulait le mettre en premier parce qu'il pensait qu'on allait marquer le public et tout ça. J'ai dit, non, on ne le met pas en premier. Parce que je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là, moi. Je ne veux pas séduire mon public, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de construire un disque, de dire quelque chose. Et donc, je l'ai mis en 4e ou 5e position, parce que je trouvais que dans mon discours, il arrivait à point nommé, à cet endroit-là. Et s'il avait dû arriver à la fin, je l'aurais mis à la fin, hein, de la même manière. Il se trouve que les morceaux qu'on avait choisis pour sortir ce disque... Ben voilà, il se trouvait que Pépé était en 4e position, je crois.
En 4e, ouais.
4e, voilà ça. Ouais. Mais voilà, juste pour dire que comment j'allais revenir à Ferré. Ben voilà, c'est en fait, en toute simplicité, ce qui a été dur, c'était d'expliquer à des musiciens de haut vol comment jouer ça. Et ça, j'en reviens à la même problématique que j'ai eue quand j'ai commencé. C'est-à-dire que nous, les musiciens de jazz, le texte, on s'en fout, en fait. Ce qui nous intéresse, c'est d'improviser.
Ouais, bien sûr.
C'est un prétexte.
Or, là, c'est quand même difficile d'improviser.
Là-dessus?
Ouais.
Non.
Non, d'accord.
On pourrait. Mais c'est pas ça que je vise, moi. Ce que je vise, c'est vraiment l'intensité de ce qu'il a vécu, quoi. Enfin, je pense...
De restituer ça.
Ouais, restituer, ouais.
Ouais.
Pas restituer, ressusciter ça.
Ah, pourquoi pas.
Non, mais c'est triste. Tu vois, ressusciter, il y a un côté un peu morbide, mais je l'assume complètement. J'ai envie de sortir ça et de montrer, de dire, mais c'est ça la vérité, c'est le néant, quoi. Il y a une espèce de... Tu vois, quand je joue, moi, je veux pas que le public applaudisse, je veux rien, moi. Je veux juste... chut, quoi. Le silence. Si je pouvais ne pas jouer, en fait, ce serait génial. Non, mais pour que les gens entendent.
Ouais, bien sûr.
Voilà. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de ça dans sa musique. Pas à toutes les périodes. Il y a un truc comme ça, un peu mystique. Si j'étais technicien producteur, je prendrais sa musique et je la réinterpréterais à ma manière.
Bah, c'est un peu ce que tu fais quand même.
Ouais, mais sans moyens. C'est-à-dire, je souffle dans un tube et puis je m'arrête là.
C'est déjà pas mal quand même.
Non, mais avec la technique, on pourrait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Oui, bien sûr.
Énormément de choses. Énormément.
Mais quand même, déjà.
Ah oui, oui. Ne serait-ce que par, avec cette musique. Des fois, je me dis, quand j'écoute tel ou tel titre, je me dis, mais mince, quoi. Pourquoi ils se sont pas arrêtés là, quoi? Et pourquoi ils ont pas laissé les accords résonner là? Parce que sa voix serait tellement plus forte là. Bah, à l'époque, ils avaient des formats de 3 à 4 minutes, il ne fallait pas dépasser ça, parce qu'il y avait le format 45 tours. Et puis voilà, on faisait de la musique quand même très millimétrée.
Bien sûr.
Les arrangeurs et tout ça, ils connaissaient ça par cœur. Voilà, donc c'est marrant, quoi. Je suis un peu fasciné par tout ça, par la technique, quoi. Et puis un peu fasciné par l'autre versant, quoi. Le versant beaucoup plus obscur.
Ouais, créatif.
Créatif, pur, ouais. Voilà. Et puis, ce que le texte... ouais, il y a une putain de résonance, quoi. Je sais pas, je peux même pas expliquer ça, quoi. C'est très puissant.
Bien sûr.
Et
on peut revenir un peu en arrière ?
Ouais, bien sûr.
Si ça t'ennuie pas. Parce que je voudrais bien savoir comment est-ce que tu découvres davantage l'œuvre. Et il me semble que lorsqu'on s'est parlé, tu m'as beaucoup parlé de la période Barclay, qui ouais. semble être une des périodes qui te touche plus particulièrement.
Ouais.
Parce que lorsqu'on s'est parlé au téléphone, tu m'as dit qu'il t'arrivait de faire des sessions d'écoute, carrément, de Léo, quoi.
Ah oui. Ah, mais c'est un rite. C'est un rite.
Déjà, à l'époque, tu le faisais et
oui.
tu continues.
Ah non, mais maintenant, c'est... je me cache. En fait, de ma compagne, de ma fille. Enfin, ma fille, je lui fais partager plus le côté un peu amusement, quoi. Non, mais parce qu'aujourd'hui, elle joue du piano au conservatoire, et elle joue Paname, elle joue...
Ouais, quand même.
Non, mais je suis obligé de me freiner, parce que sinon, on va me cataloguer. On va dire, mais donc, tu es un anarchiste, alors. Et donc, non, je suis pas anarchiste, je suis juste touché par un artiste, et il se trouve que ce qu'il raconte, je suis désolé, quoi, je m'y retrouve.
Bien sûr.
Mais
alors, ça consiste en quoi, ces sessions d'écoute, alors, ces sessions d'écoute féréennes que tu vis?
Tu veux savoir comment je fais?
Ouais.
Oh, c'est... Alors, il y a plusieurs écoutes. La nuit.
Oui.
Pas la chanson, hein.
Non, oui, le moment.
Voilà,
le moment. De la
journée. Non, mais parce que la nuit, c'est cette chanson, elle est fantastique, quoi. C'est...
Bon, l'album blanc t'a beaucoup marqué, hein, celui où il y a Pépé, l'album de 69.
Ouais, c'est un disque extrêmement puissant, mais pas que Léo, c'est tout. C'est un concours de circonstances, c'est le Big Bang, quoi. C'est la création de l'univers. Pour moi, c'est pas possible d'arriver à autant de concordances. C'est impossible. Moi qui suis dans ce milieu, enfin pas autant que Léo, mais on est là, je fais pas que mes projets. Je joue aussi avec d'autres gens, on participe à d'autres sessions. Je suis sideman. Sideman, ouais. C'est que je joue dans des projets d'autres musiciens. Sinon, je pourrais pas vivre. C'est comme ça. Donc, autant de concordances, ça me fascine. Ça ne peut pas être comme ça. Je veux pas croire à ça. Alors, on sait qu'à une certaine époque, il y avait... Le côté bling facile, il y a de l'argent, on vend des disques, c'est facile. Même si ça cartonne pas, c'est rien. Aujourd'hui, quand tu te ramasses sur un disque, tu te relèves pas. Hein.
Ouais.
Ah bah t'es par terre. Hein. Donc voilà. Alors pour revenir sur mes séances d'écoute, c'est mystique, extrêmement mystique. Alors, j'ai plusieurs formes d'écoute. La nuit, c'est extrêmement important. La nuit, j'écoute donc les disques, où j'écoute la radio. Je t'écoute, toi, d'avoue. J'écoute les émissions de l'époque. J'écoute France Culture, mais tu sais, j'écoute les nuits de Radio France, tu vois.
Ouais, très bien.
Donc ça commence à 23h30, et là, t'es catapulté dans un autre temps, quoi. Un autre temps. Ça me parle bien. Et donc, quand tu écoutes des documentaires des années 40, 50, et que t'entends des voix comme ça, y a un côté fantastique de parler devant un micro qui rentre dans un enregistreur comme ça, et dans 60 ans, on pourra écouter ce qu'on dit, peut-être pas nous, mais en tout cas, voilà, Léo, on peut entendre des émissions qui nous viennent de là-bas, mais qui sont là, immédiatement, on les entend, elles sont là, elles sont réelles, mais dès que tu fais stop, c'est fini. 2023. Terminé, non-stop, quoi. Tu vois, il y a un côté, ouais. Voilà, un peu fou, quoi. Et donc, la nuit, j'écoute énormément Ferré. Alors, c'est... Tu veux que je te dise vraiment?
Bien sûr.
Eh ben voilà, donc je me mets à écouter Paname, premier disque qui sort en 1960.
Chez Barclay, premier disque.
Et là, ça va jusqu'au 20e disque, non-stop. Et quand je m'endors. Donc parfois, je peux aller jusqu'au numéro 18, 19. Je me tape Léo Ferré qui chante en italien. Je me tape tout. Les émissions, parce que tu sais, ils ont intégré les interviews de Ferré à Europe 1, là, dans les années, je sais plus.
Ouais,
d'accord. Non, c'est des enregistrements où il est. Il avait une émission de radio et il parlait de sa vie d'artiste.
Ah oui, d'accord.
Tu vois,
je vois.
Et c'est intégré dans le coffret Barclay.
Alors non, c'est pas dans le coffret Barclay, c'est dans le coffret Léo L'Indigné, je crois.
L'Indigné, pardon, ouais. Tu as raison. Voilà, oui. Bah, c'est un disque en fait qui ne passe... Enfin, c'est un disque qui doit fumer tellement, tellement il est passé, quoi. Tu vois.
Et donc c'est davantage sur... Parce qu'en fait, dans la conversation qu'on a eue ensemble, il me semblait que tu t'étais procuré l'intégrale Barclay, le premier gros pavé...
Non.
Pavé, pardon, paru en 1990 chez Barclay, forcément. Mais non, c'est plutôt avec l'intégrale Léo L'Indigné que
L'Indigné.
Tu...
L'Indigné. Mais parce qu'en fait, dans l'intégrale Barclay, il manque...
Ah, il manque beaucoup
il
de choses.
Il manque plein de trucs.
Ah, oui, oui,
et donc, L'Indigné, en fait, j'ai pu... tout avoir, enfin avoir 650 morceaux, un truc comme ça, enfin c'est démentiel, t'en as pour 20 heures de musique.
Et donc il t'arrive de taper des sessions comme ça, d'écoute de Léo.
Il m'arrive, mais tu te plaisantes, c'est permanent, c'est tous les soirs, tous les soirs. Alors ça c'est la nuit, et la journée, alors j'allais dire, il y a quatre époques dans la journée, quatre époques, il y a les vacances scolaires, parce que ma fille a les vacances scolaires, et souvent, ma femme... prend ma fille et part toutes les deux et me laisse seule à la maison. Alors là, c'est autant te dire que c'est la folie.
Ouais.
Bah parce que là, là c'est carrément, c'est comme une retraite. Tu vois ce que c'est les retraites ?
Ouais, très bien. Ouais.
Et ben voilà, c'est comme, tu vois, il y a des gens qui vont s'abstenir de manger pendant X temps. Bon, là, moi, je m'abstiens pas d'écouter Léo Ferré nuit et jour. Donc là, c'est la folie.
Ah ouais, à ce point-là, quoi.
Ah oui, oui.
Ah, d'accord.
En fait, je connais toutes les notes, une à une. Je pourrais te retranscrire les arrangements, tout.
À force d'écoute.
Ouais, parce que je suis fasciné par cette... La technique nous permet ça aussi, c'est-à-dire de passer de l'album Paname au deuxième disque, au troisième disque. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu...
facile, simple.
Pam, quoi. Tu vois, à l'époque, il aurait fallu enlever le vinyle, le remettre dans sa poche, donc ton oreille se repose, tu reprends un vinyle, tu le mets... Là, ça s'enchaîne, et tu te prends une volée, c'est dément. Donc là, cette retraite, elle est... Pour moi, je peux même pas en parler à ma compagne, parce qu'elle peut pas comprendre. Parce que c'est comme de la... Oula, tu serais pas en train de péter un boulard, là, ou t'as besoin d'aide, là. Non, pas du tout, c'est pas d'aide. Au contraire, j'ai besoin qu'on me foute la paix pour savoir qui je suis. Et donc, en écoutant ça, j'arrive à me dire, voilà, j'ai compris, je suis comme ça. Je suis ça, pas je suis pas comme lui, bien sûr.
Non.
Ça me donne une idée... ça me donne une boussole, c'est-à-dire je me situe là à peu près, et je ne suis qu'un beau saxo, quoi. Tu comprends ?
Léo, c'est le repère, et quelque part, tu te situes par rapport à ça, quoi.
Ouais, c'est-à-dire que je suis loin d'être je ne suis pas un artiste, malheureusement. Je suis un instrumentiste, mais je ne suis pas un artiste. Alors, tout le monde me dit, tu es fou, n'importe quoi, tous les gens qui viennent m'écouter me disent, mais si, tu es un artiste, mais moi, je ne suis pas un artiste, non. Moi, je souffle, je fais des notes, quoi. Mais les notes, il y a des émotions et trucs comme ça, oui, mais il n'y a pas de texte.
Ah.
Eh ouais, les textes plus la musique, c'est badaboum.
D'accord.
C'est la somme. C'est pour ça qu'il a, il dit souvent que la musique est une espèce de chariot comme ça qui transporte la poésie vers les oreilles des gens.
Ouais.
Complètement d'accord. Complètement d'accord. Et sans la musique, il serait bien mal. Thank you.
David Elmalek dans le
Ferré Club sur Radio Libertaire.
Après, je pense que quand tu fais de la musique instrumentale, tu ne pourras pas atteindre le plus large public, un plus large public, parce que ben voilà, les gens ne... C'est marrant, il y a quelqu'un hier qui m'a dit au concert, on était rivés sur vos mélodies comme ça, rivés. Et c'était des connaisseurs. Hein. Dès que vous vous êtes mis à improviser, on entendait les gens parler. Ça veut dire quoi ça? Ben, des connexions. Facile à comprendre.
Ouais.
Quand tu fais do 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 ré mi ré nanana, nanana, tout le monde comprend. Mais si je fais da 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 da, j'ai pas fait la même chanson là.
Ça déstabilise, ça décontenance un peu plus l'auditeur.
Ben, l'auditeur est déstabilisé. Ouais. C'est pour ça que, en fait, si on remonte à 200, 300 ans de musique, on était quand même. Il y avait une façon d'écrire la musique où on lâchait pas la mélodie comme ça. Puis progressivement, on est arrivé au XXe siècle et on a éclaté tout ça. Et Léo en parle bien, des sérialistes et tout ça. Il se moque parce que pour lui, ils ont cassé quelque chose. Arnold Schoenberg a dit mais on peut composer avec 24 tonalités, donc effectivement, mais combien de gens viennent écouter et comprennent la musique d'Arnold Schoenberg? Bon ben, il y a des gens qui adorent et il y a des gens qui ne comprennent strictement rien, mais il y a des gens aussi qui n'ont pas envie de comprendre et qui tripent. Ça existe, c'est possible. Bon ben voilà, on est là-dedans quoi, et donc de me rapprocher des textes. Parce que dans ce disque, il n'y a pas que du Léo, mais ça contribue à construire ce que j'ai envie de dire maintenant. Donc, on utilise ce que les autres ont fait, parce que dans le jazz, on est des payeurs. On utilise... bah oui, on écrit de la musique, mais aussi on se sert de structures harmoniques pour improviser. Le blues, par exemple, c'est... voilà. Des chansons de blues, il y en a des centaines de milliers. Si je te demande de me chanter un blues que tu as retenu, tu pourras pas. Ou tu vas réfléchir, tu vas dire « Ah oui, alors attends, il y a ce truc de B.B. King là, qui fait comme ça, mais laisse tomber. » Tu vas le confondre avec un autre morceau de machin. Il y en a des centaines. Parce qu'en fait, on prend la structure harmonique et on écrit. Léo Ferré, il n'a pas du tout fait ça. Pas du tout. Il a ses automatismes sur les touches blanches. Mais on aime bien les touches blanches. C'est pas mauvais les touches blanches. C'est très beau quand c'est bien agencé.
Ouais, il disait ça. Il disait qu'il y a que des, il y a que des touches blanches d'une manière un peu de reproche, quoi. Dire un peu,
ah oui,
c'est un peu simpliste.
Simpliste.
Ouais, voilà, ouais.
Bah, c'est naze.
Ouais, ouais.
Les musiciens de jazz, on ne peut pas interpréter ça. Je ne vais pas citer le nom d'un pianiste parce que je ne voudrais pas lui faire de mal. Mais c'est exactement ce qu'il m'a dit un jour. Je suis arrivé avec des mélodies comme ça. Il m'a dit mais on ne va pas jouer ça comme ça, David. Enfin,
c'est trop simple.
C'est trop simple. Nul. Ah bon. Eh ben, j'ai envie de lui dire, tu écouteras Travelling et on en reparle.
Ouais, voilà.
Voilà.
Très bien.
Parce que nous jouons exactement le texte. Alors, j'ai écrit des parties de piano, mais le texte est joué littéralement. Et c'est ce qui nous touche, nous, instrumentistes, quand on joue ça. Et je pense que les auditeurs, enfin, les gens qui écoutent cette musique ne s'y trompent pas. Ils se reconnaissent là-dedans. Parce que, on véhicule quelque chose, une espèce d'émotion. Et nous, musiciens de jazz, je pense qu'on s'est trop longtemps coupé de ça. Après, t'as la musique contemporaine au sens large, c'est-à-dire il y a le jazz contemporain, le jazz actuel fait appel un peu à la musique actuelle, au rap, à la musique classique, on mélange plein de trucs. J'aime pas trop ça, moi. Moi, j'aime bien tout ce qui est simple, les instrumentations simples, un sax. On va pas révolutionner ça, quoi. On pourrait mettre des appareils pour changer son. D'ailleurs, Ferré le fait dans plein de chansons à lui, où il joue avec les zoos. Il y a un des sax qui est encore là, hein, qui est vivant. Hein, je sais plus comment il s'appelle. mince, son nom m'échappe, mais lui, il chante son soprano dans pas mal de morceaux avec Ferré. Et c'est très intéressant. C'est déjà contemporain à l'époque, dans les années, fin des années 70. Hein. C'est vachement contemporain. Bon, aujourd'hui, tu vas à l'IRCAM, le centre de Boulez.
Ouais.
Bon, bah là, les mecs, c'est des fous furieux. Ils te font des trucs impressionnants, quoi. Donc moi, je dis non, je vais prendre un bugle et je vais jouer à l'unisson, parce que c'est ce qui marque en ce moment les esprits. Comment, toi, musicien de jazz, tu fais jouer à l'unisson une mélodie aussi simple?
Je dis,
mais ça vous pose un problème? Mais non, mais c'est ce qui nous bouleverse. Je dis, mais alors, musicien de jazz, réveillez-vous! Pourquoi vous le faites pas dans tous les enregistrements des années 50 qui nous ont marqués?
Pour venir à une forme de simplicité?
Alors, ouais, mais il y a un côté super aussi, hein, quand on écoute, je sais pas moi, Miles Davis avec Coltrane justement, ou Lee Morgan avec Joe Anderson, et qui joue des secondes voix comme ça, mais qui sont pas très compliquées. Mais c'est quand même déjà très complexe pour l'époque. Tu vois? Il y avait celui qui jouait la voix principale, et puis le sax qui jouait une seconde voix. On appelle ça une voix parallèle qui va faire chanter le thème principal. C'est très beau, ça a été développé par les musiciens classiques. Enfin voilà, c'est des techniques d'écriture, en gros. Et nous, musiciens de jazz, on s'est évertués à faire des trucs un peu alambiqués comme ça, où on rajoute des voix, et puis à la fin, ça devient des big bands où on écrit des trucs ultra complexes. Mmh. Et puis après, il y a la musique symphonique. Enfin bon, bref, on va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est pour te dire que ce qui m'intéressait, moi, c'était la mélodie au sens pur.
Ouais.
C'est pour ça que chez Ferré, en fait, il peut nous emmener très loin dans ses textes. Mais si tu enlèves les textes et que tu joues que la mélodie, c'est là qu'on découvre Ferré aussi. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas, par exemple, à ses textes, il pourrait être frappé par ce qu'il a écrit dans ses mélodies. La manière dont il a posé ses mots sur les notes. Ça me frappe, quoi. C'est-à-dire que c'est j'ai envie de dire, c'est de la grande musique, quoi. C'est de la grande musique. Après, on pourrait, chaque arrangeur, chaque compositeur pourrait en faire autre chose encore.
Bien
et
sûr,
puis,
bien sûr, bien
voilà, Jean-Michel Defay en fait des trucs superbement réussis. Et, mais ça correspond à une époque précise. Aujourd'hui, si on disait, tiens, on va faire un truc sur Ferré, ben, ça donnerait complètement autre chose. Et, mais l'origine de ces morceaux, c'est ça. C'est pas un truc, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a des documents qui traînent de Léo que j'ai découvert il y a pas très longtemps, où on l'entend jouer avant les enregistrements originaux, les maquettes.
Alors, il dit ses textes. À l'état brut, quoi.
Ouais, et ça, ouais. Je trouve ça intéressant. Tu sais que j'ai tous les relevés de piano.
Ah ouais?
Ouais. Je me suis procuré d'ailleurs les éditions de la mer.
Ah, tu veux dire les partitions?
Les partitions qui sont... c'est des volumes, tu vois.
Ouais, tout à fait.
Il y en a jusqu'à 8 ou 10, je sais plus combien.
Ah, tu te les as procurés, ouais.
J'ai pas réussi, j'ai même écrit à Mathieu pour savoir si c'était possible d'avoir même un truc...
une photocopie.
Ouais, je suis prêt à le payer et tout. Bon, j'ai jamais eu de réponse, mais il me manque, je crois qu'il me manque le volet 7 et...
Ah, t'en as quelques-uns quand même.
Ah oui, oui.
D'accord.
Ah oui, oui.
Okay.
Bah, en fait, comme je suis fasciné par sa musique, par le personnage, par son développement artistique, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ça m'intéresse de... Je sais pas, comme quand tu lis un livre. Enfin, tu vois, tu t'imprègnes, tu apprends. Tu apprends, ça te remue et donc tu en prends acte. Donc moi, ce mec-là, il est aussi important que Coltrane ou n'importe quel grand musicien de jazz. Il est même au-dessus, je dirais. Tu vois, les auditeurs, pardon hein, pour ceux qui aiment le jazz, mais si je fais un comparatif, par exemple, à un mec comme Quincy Jones,
oui.
Qui a 95 ou 90 ans, là, c'est un mec très vieux, hein. Tu sais qu'il est trompettiste.
Ah non,
à la base, c'est un trompettiste de jazz qui a bourlingué dans les années 40, qui a traversé toute la période bebop, où les gens dansaient sur cette musique de fou,
ouais,
quand même, où il y avait beaucoup de notes par mesure, beaucoup de notes qu'on ne comprenait pas, mais c'était leur rock'n'roll, on va dire. C'est une musique qui a duré très peu de temps, hein, moins de 10 ans. Hein.
D'accord,
puisque Bird, Charlie Parker, meurt en 1955, et on dit que c'est la fin du bebop. D'accord. Eh ben Quincy, à cette époque-là, il arrête presque sa vie de trompettiste, mais il continue. On sait qu'il a participé à plein d'orchestres, mais il commence sa vie de arrangeur. Mmh. Et donc là, il devient un des arrangeurs les plus réputés au monde, puisqu'il est passé des plus grands musiciens de jazz, en passant par la musique de Starkey et Hutch, en passant par Frank Sinatra, en passant par Michael Jackson, toutes les grandes périodes. Jusqu'à Whitney Houston, en passant par... C'est inimaginable la carrière de ce mec-là, c'est dément quoi. Donc, t'as vu, il est très très haut, hein,
ouais,
pour moi.
Ouais.
Bon ben... L'association Ferré de Faye, pour moi, elle est là. Elle est au même niveau.
D'accord.
Pareil. Il y a un enregistrement de Faye où il dit quand Léo lui a proposé de bosser avec lui, il était avant tout pianiste. D'accord. Mais quand il lui a cédé, en gros, les droits de développer ses arrangements en toute confiance, en gros, il est devenu presque réalisateur des disques, on va dire. Presque. Après, je pense que l'autre, il arrivait, il disait, bon, là, non, je suis pas d'accord. Ou... Bref, il dit que c'était un challenge pour lui, parce qu'il faisait déjà des arrangements pour plein d'artistes avant Ferré, hein, de Faye. Et donc, on sait que pour lui, c'était un challenge d'écrire de la musique et de mettre d'abord les textes en avant. Et puis des textes quand même, c'est un peu spécial. Il n'y a pas un type comme ça qui traîne dans les rues, quoi. C'est tous des gens qui tapent la chansonnette comme ça. Je pense à Catherine Sauvage, parce qu'à l'époque, elle était beaucoup quasiment plus connue que lui. Et donc, les arrangements derrière, c'est toujours les mêmes trucs. C'est il y a un côté un peu plan-plan. Et De Faye dit, pour moi, c'était un challenge de suivre les mots de Léo et que les arrangements soient un peu derrière, mais quand même un peu qui viennent envelopper tout ce qu'il raconte. Et je trouve que, mais absolument tout, je pense à l'Albatros, tu vois, cette chanson mise en musique sur Baudelaire, mais c'est... Ah, j'en ai le... Ça me fait un truc à chaque fois, je me dis, mais comment ils ont réussi à aller... En fait, c'est comme s'ils avaient trouvé le Titanic, quoi, tu vois. Ils sont là, ah, putain, mais il est là, quoi. On va le remonter à la surface, tu vois. Il y a un côté... c'est dément, quoi. Je trouve qu'ils ont réussi pour moi, c'est la plus belle collaboration que j'ai trouvée. Il y en a, évidemment, dans le jazz, il y en a plein, mais qui durent aussi longtemps.
Ouais.
Oh, plus de 10 ans, c'est fantastique d'arriver à une telle complicité, tu vois, d'écrire de la musique, de dire, voilà, ça, c'est les arrangements que j'ai faits, là, on se retrouve au studio, je sais pas quand, puis roule.
Ouais.
Et en toute confiance, parce que c'est évident qu'on n'avait pas le temps de répéter. On n'avait pas le temps. Ça coûte trop d'argent de répéter. Et donc, on réunit des musiciens fantastiques, avec des arrangements fantastiques, et Léo arrive, paf, et il se pose là-dessus, et ça ne peut qu'être fantastique, quoi. Moi,
ouais,
pour moi, c'est beau, quoi.
Ouais.
Donc, c'est un panthéon, quoi. C'est un truc, on peut pas ne pas faire... Donc, moi, je peux rien échanger avec les musiciens de jazz là-dessus, parce qu'ils sont pas d'accord. Parce que c'est la chansonnette.
Parce que oui, voilà, mais parce qu'ils connaissent Léo en tant que chanteur, voilà. Pour eux, voilà. C'est un chanteur et qui a chanté avec
oui,
le temps
et... il vibre comme ça, là, avec sa voix.